Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, meilleurs voeux déjà, vu qu'on se retrouve donc pour la première émission en 2012 du débrief. Donc ben, comme tous les mardis, 20h, 21h, vous commencez à prendre un petit peu le nouveau pli. Donc voilà, ben, pour commencer cette année 2012, ben, comme de coutume, j'ai envie de dire, l'année commence pour les clubs de National et puis pour tous les clubs en général par un tour de Coupe de France. C'était les 32e de finale qui se déroulaient ce week-end. On a eu le tirage complet des 16e de finale. Et donc on va commencer par parler donc de cette Coupe de France, en s'attardant bien sûr sur les clubs du championnat national qui étaient sur les terrains de Coupe de France. On ne parlera pas des résultats du championnat national, étant donné que le seul match qui devait avoir lieu, c'était Épinal-Beauvais, et il a été encore reporté à cause des conditions météo. Donc aucun match du championnat national s'est déroulé ce week-end. Donc on se concentrera uniquement sur les résultats de la Coupe de France. Donc au niveau des 16e de finale, au niveau du tirage, vous le savez, donc une seule affiche entre clubs de Ligue 1 avec Nice-Rennes. Ensuite, on a 5 affiches entre clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Donc Valenciennes recevra Bastia, Marseille, Le Havre, Auxerre, Châteauroux, Dijon recevra Istres et Montpellier, donc seul club de Ligue 1 à se déplacer chez un club de Ligue 2 puisque les Montpellierains iront à Tours. Et ensuite, donc, une seule confrontation entre un club de National et un club de Ligue 1. C'est donc Créteil qui a décroché un petit peu le gros lot avec Bordeaux. Mais pour parler de ce tirage, Jean-Luc Vasseur a eu une réaction assez sympa, je trouve. Donc je vais vous la lire. Il a dit « Même si Bordeaux est une belle équipe de Ligue 1, il est hors de question de partir perdant. Souvent, les amateurs qui tirent une Ligue 1 parlent de fête, poursuit le coach, mais la fête, elle existe que quand on se qualifie. Là, on aura le beau rôle, celui de l'outsider, qui aura tout à gagner et rien à perdre. J'ai la faiblesse de croire que ce costume peut nous aller comme un gant. » Donc, c'est quand même pas mal au niveau de la déclaration. Moi, ce que j'aime bien, c'est que Jean-Luc Vasseur, il va jouer ce 16e de finale pour gagner. Ils ont décroché une Ligue 1, c'était vraiment l'objectif. Quand il revenait de Mulhouse dimanche soir dans le train, le Parisien soulignait que dans le wagon numéro 7, au moment où du tirage et qu'ils ont su qu'ils prenaient Bordeaux, on a eu des chants comme si ils venaient à nouveau de gagner un nouveau match. Donc il y a eu la joie du tirage, mais la réaction de Jean-Luc Vasseur est vraiment sympa, puisque donc lui, il reçoit Bordeaux, c'est sympa, mais ça sera pour gagner. Voilà, ça c'était pour parler du tirage. Donc on va revenir un petit peu sur Créteil-Mulhouse, enfin Mulhouse-Créteil pour être précis. Donc Mulhouse, club de CFA2, Thomas, je dis pas de bêtises.
CFA.
CFA. Ouais. Ah ouais, donc je dis une bêtise en plus. Donc oui, donc club de CFA. Créteil pour l'occasion avait pas vraiment fait tourner. Ils étaient privés de plusieurs joueurs blessés, donc notamment de Boris Mahon, le latéral droit, donc ce qui explique que Danilo Da Cruz le remplaçait sur le côté droit de la défense. Après, non, on n'avait pas fait tourner côté cristolien, juste dans les buts où Thibaut Ferrand succédait à Yann Kerboriou. Mais c'est tout. Sinon, on avait l'équipe assez classique avec Di Bartolomeo, Godouin, Thomas et donc Da Cruz en défense. Le milieu avec Laïfa, Nirlo. Au niveau des milieux offensifs, on retrouvait donc Jean-Michel Lesage, Bagali Dabo et Jelly Lane et Aristide Bain en pointe. Bon, on notait juste le retour de Elder Esteves dans le groupe qui revenait de blessure. Mais donc absolument vraiment un match de reprise et une équipe de Créteil au complet pour se déplacer à Mulhouse. Et donc, ça a payé assez rapidement, puisque dès la première minute, sur un coup franc un petit peu anodin de Jean-Michel Lesage, le gardien mulhousien, glisse et relâche le ballon devant Di Bartolomeo qui ouvre le score donc dès la première minute. Donc là, c'est clair que le club, une division inférieure, ne démarrait pas vraiment le match de la meilleure des manières. Au bout de 20 minutes, Jelly Lane servait Dabo qui doublait la mise. Et puis à la 48e, là, la messe était dite grâce à Jean-Michel Lesage qui dès 25 mètres triplait la mise. Mulhouse sauvait quand même l'honneur par Kesha à la 52e minute. Mais donc Créteil réalisent, on va dire, ouais, qu'ils ont fait le boulot, bon match de reprise. Maintenant, il faudra enchaîner en championnat dès le week-end prochain. Thomas, du côté de l'Alsace, comment on a vécu ce match avec donc la réception d'un club de national qui était Créteil?
Bah écoute, c'était un peu une fête à Mulhouse puisque le club a affiché complet durant cette rencontre avec 1500 supporters. Donc ça devait être au départ une belle fête mais malheureusement on n'a pas vu vraiment le match de coupe hein, comme à l'image de ce but par exemple pris à la première minute et qui était le début d'un long calvaire pour tout simplement pour les Mulhousiens et qui ont joué comme d'habitude finalement comme en championnat pas transcendant il y avait pas grand chose et c'est vraiment dommage comme le dit Johansen dans l'interview qu'on va écouter juste après ils sont trop mis à pression quoi ils sont trop mis à pression et ils ont pas joué ça comme un match de Coupe de France mais comme un match très important où il y avait quelque chose à perdre alors qu'au contraire il y avait rien à perdre. Et c'est vraiment dommage, il y a beaucoup de jeunes qui ont joué ce match, qui avaient pour la première fois l'occasion de jouer un 32e de finale et qui sont passés complètement à côté. Or, c'est dommage, ça aurait pu faire un bon petit exploit dans le stade de Lille à Mulhouse, mais bon, ça a tourné au calvaire pour les Mulhousiens, c'est que mener 3-0 qu'ils ont réussi un peu à se lâcher en marquant un but et voilà, alors qu'ils auraient dû se lâcher dès le début quoi, pas se mettre trop de pression comme ils l'ont fait, c'est vraiment voilà, dommage. Donc Johansen qui est un de ses joueurs hein, pour ceux qui ne le savent pas encore hein, Johansen qui jouait à un ancien joueur de Metz et de Strasbourg, qui a fait les deux opposés, les deux ennemis, et de l'OM, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est juste pour la petite histoire, parce que Strasbourg et Metz sont quand même les deux clubs les pires ennemis, et il a réussi à passer de l'un à l'autre d'un coup sans rien, et maintenant il revient en Alsace à Mulhouse, et c'est un des joueurs forts de cette équipe, et il parle justement qu'ils sont mis trop de pression, et qu'ils sont vraiment, déçu mais qu'il va falloir se reprendre sur le championnat puisqu'ils sont quand même mal placés dans le championnat de CFA puisqu'ils sont 14e et il va falloir remettre les bouchées doubles à l'entraînement pour pouvoir faire une deuxième bonne partie de saison.
Ok, on écoute Johansen.
C'était clair qu'on allait se battre, maintenant je pense que voilà, on a été trop tétanisé peut-être, comme j'ai dit avant, c'est peut-être mis trop la pression aussi, je pense que la coupe ça doit être un truc qu'on doit jouer avec de l'euphorie, de l'enthousiasme et rien à perdre. Je pense que peut-être que ce soir on s'est tellement dit qu'il y avait quelque chose à faire qu'on s'est mis la pression un peu inutilement peut-être. On a senti une équipe qui profitait pas de ce moment-là justement pour faire un exploit et voilà, ça fait qu'on passe à travers sur la première mi-temps.
Le premier but c'est vraiment le tournant du match, Pascal.
Pas forcément, comme je le dis, il restait encore 90 minutes derrière. Donc après, non, si on revenait un partout, c'était largement jouable. Je pense que c'est le deuxième qui le met dedans où on sent qu'on est tétanisé et qu'on n'arrive pas à se mettre dans la partie. Et voilà, comme je le disais, je pense que c'est aussi cette jeunesse peut-être qui fait qu'à un moment donné, on ne sait plus trop quoi faire, on ne sait plus trop où on en est. Et le troisième but n'arrange rien. Et bizarrement, une fois qu'on marque, même si on sait que c'est quasiment terminé, on arrive à se lâcher, à commencer à jouer, à les faire douter presque. Donc voilà, ça nous servira peut-être d'expérience aussi pour les matchs à venir. C'est bon, la dernière demi-heure est intéressante, donc voilà, il faut garder ça maintenant. C'est la coupe est derrière nous, maintenant c'est championnat.
Ok, donc on a bien écouté ce que nous disait Pascal Johansen. J'avais juste une question, Thomas, sur Mulhouse. Mulhouse, ça fait combien de temps qu'ils sont en CFA, parce que c'est un club qui a été en Ligue 2, ça, dans les années 90.
Ouais, c'était un grand club qui a connu un peu pareil fin que le Racing Club de Strasbourg qui a eu des problèmes de financiers et beaucoup d'autres problèmes, et ça fait bien 5 ans je pense qu'ils sont ou plus même hein, qui sont en CFA, je dis pas de bêtises, je crois que c'est 7 exactement. Je vais essayer de trouver
d'accord.
Ça.
Mais il y avait une rétrogradation financière comme
oui, exactement, et c'est vraiment dommage. Ils pensaient pouvoir revenir au plus haut niveau, et puis ça la mayonnaise l'a pas pris. Moutard n'a pas pris, c'est dommage. Ça fait depuis fin 2001 qu'ils sont en CFA. Donc ça fait maintenant 11 ans finalement. Ouais. Ça fait quand même plus que je ne pensais. Mais c'est vrai que ça arrive toujours pas à prendre. Et l'année dernière, il y avait un petit mieux, mais là, de nouveau, ça repart dans les abysses.
Ils visent la montée, tu crois, en début de saison, ou ils ont pas?
Ah oui. Ils ont un bon effectif pourtant. Hein. Johansen, c'est pas rien. Ils ont des joueurs qui sont pas mal comme Loïc Fortuna, Grégory Pastel ou Gaëtan Sidney, mais ça prend pas, comme dit sur les matchs, je sais pas pourquoi, c'est pas cohérent entre eux, il y a pas vraiment de, c'est la, voilà, ça prend pas tout simplement, et c'est vraiment dommage. Mais chaque année ils essaient de viser la montée chaque année, mais il manque ce petit brin de folie, ce petit plus qui fait que c'est vrai qu'ils ont un très gros effectif et ça rate, ça pêche et
ouais, ça pêche pas mal si tu nous dis quand même que cette année ils sont que 14e.
Pour l'instant, oui.
Ouais. OK, on continue donc un club de national qui cette fois par contre a battu une équipe de Ligue 1 et qui donc au prochain tour recevra une équipe de Ligue 2, le Gazélec d'Ajaccio, donc qui a battu Toulouse 1-0 sur l'île de Beauté et qui donc au prochain tour recevra les Troyens de l'Estac. Thomas, tu peux nous en dire un petit peu sur ce match?
Toulouse c'est des récidivistes, hein, je veux dire, hein, ils retiennent pas la leçon chaque année, on se rappelle si je m'abuse, il y a 2 ans, ils se font éliminer chez eux contre le PFC, Paris FC. L'an dernier, je crois, ils se font éliminer aussi par un club plus bas, donc Toulouse qui retient jamais les leçons de la Coupe de France. Et donc là, ils sont tombés à Ajaccio. Pas Ajaccio, le club titulaire,
mais
le Gazélec. Ouais. Gazélec qui évolue en national, qui a des résultats pas trop mauvais et qui est...
Ouais, le Gazélec, tu fais bien de le dire, ils finissaient fort la saison. Hein. On sait qu'en début de saison, ils étaient en fin de championnat, puis là, ils ont enchaîné des résultats assez impressionnants. Et ils sont en 6e position dans le championnat national. Et,
ils sont pas mal. Hein, et j'avais remarqué aussi qu'ils remontaient pas mal. Et ouais, ils accrochent Toulouse, ils accrochent pas, ils les battent même. Mmh. C'est encore plus remarquable. Mais Toulouse... quand j'ai vu qu'ils étaient monoscores, j'étais pas surpris parce que chaque fois ils gueulent de pas, mais je sais pas. Puis Ajaccio devait être plus motivé que Toulouse. Le match 1-0, but et voilà, après ils ont bétonné derrière. Le but a été marqué à 48e, il me semble. Exactement.
Ouais, juste après la mi-temps. Minutes.
Donc juste après la mi-temps, ça met un coup sur la tête. Et Toulouse, c'est des pros. Ils ont d'autres compétitions, ils ont le championnat, la coupe. Hein. De toute façon, les clubs pro, on le verra avec d'autres clubs. Hein. Il y a d'autres exemples, comme Caen par exemple, qui jouait contre 3, le futur adversaire du Gazélec. Mm-hmm. Et donc, Caen qui perdait 2-0, ils reviennent à 2-2, ils font le plus dur et ils prennent 2 buts derrière. Donc,
ouais, non, mais c'est vrai ce que tu
dis.
Dire,
certains clubs. Et l'exemple de Sedan aussi qui perd contre Sablé, un club là inférieur, et voilà, il y en a des exemples comme ça où les clubs pro pas respectent pas mais mettent pas l'investissement nécessaire pour battre le petit, quoi.
Bah après c'est vrai ce que tu dis, mais hier il y avait le commentateur, je sais plus qui c'était, quand je regardais Locminé face au PSG, il disait le problème c'est que les gros dans ces matchs-là, ils ont tout à perdre. Parce que même à la limite s'ils les gagnent comme Montpellier a gagné 4-0, Marseille a gagné 5-0. Mais ouais, c'est normal de gagner 4-5-0, donc ils ont vraiment tout à perdre et ils ont surtout rien à gagner, alors que les petits, eux justement, ils ont tout à gagner, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils arrivent à se lâcher et pas faire comme disait tout à l'heure Thomas pour Mulhouse. Mais quand ils arrivent à se lâcher, du coup ça peut faire des trucs assez exceptionnels, vu qu'ils ont rien à perdre. Et je pense que c'est exactement le cas de figure qu'on a eu à Ajaccio pour la victoire du Gazélec face à Toulouse, un peu que Toulouse ils se sentent un petit peu moins concernés, puis après ils se font rentrer dedans par des joueurs surmotivés. Et voilà, ça donne ces surprises qui font le charme, qui font
le charme de la Coupe de France. Là, oui, d'accord, mais bon, Ajaccio quand même comme on dit, il revenait bien en championnat, donc ouais, c'est pas non
pas
plus
national.
Oui, non, je sais.
On a quand même deux divisions d'écart.
Oui, non, mais comme je te disais, Toulouse, ils sont coutumiers du fait. Je me rappelle la défaite contre le PFC, là, c'était une honte. Après, je me rappelle plus les autres matchs, mais je sais que en coupe, Toulouse, c'est rarement brillant, quoi.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Le problème, il y a certains clubs comme ça. Il y a Caen aussi une année, ou l'an dernier, je crois, ils se font sortir par Lyon, ok, mais cette année contre Troyes, un club inférieur, et ils reviennent au score, et puis après ils se font battre. Voilà quoi, je trouve un manque d'investissement de la part des clubs, des joueurs surtout. Parce que en coupe ça tourne, mais normalement quand ça tourne, les joueurs qui jouent pas d'habitude devraient être surmotivés et essayer de prouver à l'entraîneur qu'ils ont leur place, mais apparemment c'est pas le cas.
Ouais, c'est je viens de vérifier là. Toulouse était l'année dernière hein, qu'ils se sont fait sortir par
PFC, IRC, okay.
À domicile. Ouais. La saison précédente, ils avaient été battus par Brest, club à l'époque Brest, de Ligue 2,
ouais,
aussi à domicile.
Aussi, tu vois, donc, à domicile. Ouais, non, mais battent par des clubs inférieurs.
Ça
donc
bien
pour dire que c'est pas sans coutumier du fait. Et faut quand même saluer la performance du Gazélec, mais bon, c'est quand même, oui, ils battent un club de rang au-dessus, c'est pas mal. C'est déjà
c'est
bien
sûr.
Pour eux. Et oui, mais après, oui, avec Toulouse, faut s'attendre à tout, surtout en coupe. Même en championnat, les résultats de Toulouse, c'est un peu en dents de scie, hein. Ça gagne difficilement à domicile et à l'extérieur, ça dépend. Hein.
Ouais, ouais, bon,
c'est
après,
Toulouse,
c'est,
quoi.
C'est aussi des clubs d'un autre niveau en championnat, mais bon, c'est clair.
Oui, c'est notre niveau, mais bon, c'est pour te dire l'état d'esprit un peu qu'ils
ouais,
ont
ouais, ouais, non, mais
sur l'extérieur, quoi.
Je vois bien. Ok, donc on a fait donc le club de national qui recevra un club de Ligue 1, c'est Créteil. Le club de national qui recevra un club de Ligue 2, c'est donc le Gazélec d'Ajaccio. Et il y a un club de national qui recevra un autre club de national, donc avec un match donc 100% national, avec donc cette équipe de Niort qui recevra Orléans. Donc Niort qui là aussi, on a deux petits exploits que tu vas nous détailler, Clément, puisque Niort a battu Brest. Presque sans trembler, j'ai envie de dire, avec la manière 2-0, et Orléans a sorti le leader de la Ligue 2.
Bah, du côté de Niort, on peut même se poser la question de quel club était en Ligue 1 et quel club est en National. Hein. On sait que Niort reste sur de très belles performances, et est notamment leader du championnat national, hein, vous le savez, puisque vous suivez bien entendu notre émission de semaine en semaine. Et cette équipe de Niort qui n'a pas tremblé, tout simplement, surclassant une équipe de Brest qui avait quand même mis une équipe bis, hein, il faut le dire. Mais un joueur à l'image de Arnaud Gonzalez, qui a longtemps joué à Guingamp et qui est donc intimement relié à cette Bretagne, s'est fait un plaisir de mettre Brest sous pression. Et on va dire qu'ils ont eu un peu de réussite sur leur but quand même, les Niortais, mais...
Surtout dans le premier.
Dans les deux buts, je dois dire que il y a une part de chance, mais vu qu'ils ont mis la pression tout le match, qu'ils se sont procurés les plus grosses occasions, il n'y a pas photo sur l'ensemble de la rencontre. Si on prend uniquement les buts, donc le premier arrive à la 40e minute avec un coup franc bien tiré par Bernard. Et c'est le mur qui contre le ballon, Roy qui récupère le ballon et frappe directement en direction des buts. Et deux joueurs de Niort qui passaient par là, dont Diao qui touche le ballon du pied et qui dévie complètement la course pour tromper d'un magnifique contre-pied Johan Hartog. Donc Johan Hartog.
Ah oui, c'est la boulette, la fameuse boulette.
Non, c'est pas celle-là.
Ah non, ouais, non mais Hartog. En plus, il était à Lyon, non?
Et voilà, Hartog,
c'est ce que j'allais vous demander.
Moi, si je l'avais noté celle-là, j'aurais fait en début de saison avec Gorgelin du côté du Red Star qui, on va pas dire qui a fait une boulette contre Marseille, mais qui n'a pas non plus été très inspiré sur le but de Cherou. Toujours est-il que Hartog, pour le coup, a subi une grosse désillusion aux alentours de la 50e minute, 53e précisément. Tout simplement lorsque Roy repique au centre et fait une frappe qui d'abord passe entre les jambes de Koulibaly, puis touche la poitrine de Bess et termine tout simplement sous le corps d'Artok pour rentrer une belle arconada à ne jamais montrer dans les écoles de foot. Mais toujours est-il que cette équipe de Niort menait donc sur le score de 2-0 et a tout simplement géré la fin de match. 40 minutes tranquilles du côté de Niort, on n'a pas vu de grosses occasions ni d'un côté ni de l'autre. Certes, Brest a tenté quand même de remonter, mais finalement c'est plutôt la belle volée de Diaw ou encore une grosse occasion de Gonzalez avant qu'il sorte, qui ont mis cette équipe de Niort dans de bonnes conditions pour le tirage au sort des 16e de finale donc où le leader de National sera opposé à Orléans, comme tu le disais, qui a éliminé le Clermont Foot Auvergne. Et c'était vraiment pas facile. On pouvait entendre du côté d'Orléans avant le match qu'ils allaient espérer faire la surprise, tout simplement en tenant au maximum, en allant peut-être même jusqu'aux prolongations. Et ils ont fait même mieux qu'aller en prolongation, ils sont même allés jusqu'aux pénaltys. Et des pénaltys très très serrés, bien que cette équipe de Clermont a entre guillemets craqué, puisque deux pénaltys ratés, un seul pénalty raté, et Orléans qui a inscrit ses 5 pénaltys. Et donc plus que mérité pour Orléans, puisqu'ils ont réussi à tenir cette équipe de Clermont. Et malgré tout, Clermont donc qui fait partie des équipes éliminées de Ligue 2 par une équipe inférieure. Une belle revanche pour Orléans dans son match face à Niort, puisque il n'y a pas si longtemps que ça, Niort était allé s'imposer du côté d'Orléans 5-1. C'était le 2 décembre 2011.
C'est ce dont je voulais te parler, parce que hier sur RMC ils ont fait réagir un joueur d'Orléans et qui disait que lui de ce tirage il en était pas vraiment content, et du coup il faisait allusion à cette victoire 5-1 de Niort. Et oui, t'as raison, en plus c'était à Orléans, donc
ça fait doublement mal.
Là tu prends un gros de ton championnat, donc là c'est vraiment le tirage un peu catastrophe.
Et oui, un gros de son championnat qui en plus de ça on n'a pas l'habitude de craquer entre guillemets. L'Union n'aura pas forcément la pression d'être supérieur, puisqu'ils sont malgré tout dans la même division, hein. C'est pas comme s'il y avait 3 ou 4 divisions d'écart. Donc ça va être très compliqué pour Orléans, qui va donc devoir faire une belle performance. Et il y a largement la place malgré tout pour créer l'exploit entre guillemets de cette équipe du Loiret, Lusso comme on l'appelle, mais Niort a à cœur de ne pas se faire surprendre et d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Un 8e de finale sera déjà un bon objectif.
Ouais, et puis pour nous la bonne nouvelle pour le débrief, c'est qu'on est au moins sûr d'avoir un club de national au tour suivant. Le dernier club de national donc recevra un club de Ligue 2. Oui, il recevra Angers. Donc c'est Quevilly qui a battu difficilement quand même Clément, puisqu'ils ont battu au tir au but une des dernières équipes, un des petits poussés de cette Coupe de France, puisqu'il reste encore des équipes de DH. C'était la Tour d'Ardèche de Rennes, et donc Quevilly est allé s'imposer après un 0-0 à l'issue des 120 minutes à Rennes, donc 5 tirs au but à 4, Clément.
Légère déformation géographique, c'est bien la Tour d'Auvergne-Rennes et non pas la Tour d'Ardèche-Rennes.
Ah oui.
Mais bon, c'est tout à ton honneur, hein, on ne reviendra pas dessus. Mais c'est vrai que cette équipe de Quevilly qui aime bien les tirs au but, lors du dernier tour, c'était face à Fény et à Fény, donc Quevilly qui s'était imposé 3 tirs au but à 0, et il y avait eu un partout, oui, à l'issue du temps réglementaire, donc très très serré. Donc la dernière fois ça s'était bien passé, 3-0, et là jusqu'au dernier penalty c'était très 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 serré. Et Quevilly qui s'est fait on va dire un petit peu peur malgré tout. Un match compliqué, assez piège, quelques petites occasions où la Tour d'Auvergne aurait pu bien sûr ouvrir le score avant la mi-temps. On a vu notamment une occasion de la tête terminée juste au-dessus de la barre transversale, mais Quevilly également à la 41e minute a fait une barre transversale par l'intermédiaire d'Anthony Lop. Et en deuxième mi-temps, bah, l'expulsion du gardien de TA Rennes, donc Montagne, qui a été exclu pour une faute largement en dehors de sa surface, a été un élément déterminant pour Quevilly. Et finalement, ça s'est un peu senti sur la fin de match où Quevilly a dominé la prolongation sans toutefois pouvoir trouver l'avantage. Et la TA Rennes qui malheureusement n'a pas réussi à se qualifier, un pénalty tiré sur la barre transversale lors du quatrième pénalty de la TA. Et Quevilly qui conclut parfaitement par Bograr qui ne tremble pas du tout. Et Quevilly qui se qualifie donc pour les 16e de finale.
Ah, ils ont quand même bien bataillé, Quevilly, puisque ouais, j'ai regardé le gardien donc, qui s'est fait expulser à la 66e, mais sur les 120e minutes, ça faisait qu'à la moitié du temps, quoi. Je pensais pas qu'il s'était fait expulser si tôt, en fait, le joueur.
Si, c'est ça posait justement un souci du côté de Quevilly de voir qu'à 10 contre 11, c'était pas possible d'ouvrir le score. Alors, il y a eu quand même une occasion plus que chaude avec cette équipe de Quevilly qui s'est retrouvée dans une position plus que favorable offensivement, avec un centre en retrait pour un joueur dont je n'ai plus plus idée à l'heure actuelle, qui s'est retrouvé tout simplement tout seul, plus que tout seul, au point de pénalty avec un ballon à mettre au fond, aisément, je dirais, et qui trouve le moyen de tirer tout simplement, on va dire, 10-15 mètres au-dessus. Mais une occasion plus que facile, on pourra même la mettre parmi les plus gros ratés de, de cette saison du côté de Quevilly, je pense.
Ok, ouais, et Quevilly, juste pour conclure, l'équipe, c'était à peu près l'équipe titulaire. Je regarde, on avait dans les buts El Karoubi, donc qui est revenu de la CAN des moins de 21 ans, c'est ça ?
Voilà,
on repartira pas pour la CAN quand même des...
Non, normalement non.
Des grands. Et donc, ouais, il y avait El Karoubi, Joris Collinet, Zankediara, enfin, c'était l'équipe type à Quevilly aussi.
Ah, ben oui, on a pris ce match à cœur. Justement, j'ai l'interview de l'entraîneur de cette équipe de Quevilly, qui est plutôt content de la performance depuis 3 ans de son équipe en Coupe de France. Je vous laisse l'écouter.
J'ai pas la sensation que tout le monde s'en rend bien compte de ce qu'ils peuvent faire dans cette compétition. Dites-moi qui a fait ça. Demi, 16e, encore 16e là. Ce qu'ils font, c'est. Il faut être solide, costaud et la remise en question depuis 3 ans. Je peux vous dire que c'est pas toujours simple et ils arrivent toujours à s'en sortir. Donc le coup de chapeau ou un grand coup de chapeau n'a même pas sa place. C'est pire.
Ok, donc voilà, on a écouté Régis Brouard donc, qui est toujours entraîneur de Quevilly et donc qui nous faisait état de fait que Quevilly est bien une équipe de coupe et donc au prochain tour Quevilly donc qui contre Angers. On a fait le tour des clubs de national qui se sont qualifiés. On va quand même parler maintenant un petit peu de ceux qui ne se sont pas qualifiés. Thomas et donc notamment Fréjus qui était opposé à l'autre club d'Ajaccio et qui là par contre s'est incliné lourdement 3-0 à domicile.
Oui, c'était samedi à 20h. Pourtant, Fréjus qui portait pas trop mal en début de match et ils ont complètement craqué au retour des vestiaires puisque Fousseni Diawara marque la 47e, donc juste après le retour. Et après c'est Kinkela qui double la mise à la 70e et Elani qui marque à la 91e. Et ça m'a surpris parce que je les voyais mieux. Ça m'a surpris, oui et non, parce que je vais expliquer pourquoi. Donc Fréjus à domicile, normalement c'est pas trop mal.
C'est plutôt solide,
quand même.
C'est plutôt solide, hein,
ouais. C'était un match de gala contre une Ligue 1 quand même. Et puis, ça me surprend que l'ampleur du score. Mais finalement, je me dis que Ajaccio, si on regarde leur dernier résultat, c'est 2 victoires en Ligue 1.
C'est vrai.
Donc, ils reviennent fort. Justement, ils ont un esprit combatif. Je pense que leur esprit combatif du championnat s'est répercuté sur la Coupe de France, parce qu'ils étaient, ils sont toujours derniers, il me semble, mais ils avaient un écart assez important. Là, ils ont commencé à réduire l'écart. Et donc ils ont fait le boulot et je pense que ça en a surpris plus d'un cette victoire parce que Fréjus était quand même pas mal en ce moment et
surtout l'ampleur de la victoire.
L'ampleur, ouais, l'ampleur qui surprend, ouais, c'est tout ça.
Ouais.
Et au niveau de l'équipe, c'était à peu près l'équipe type hein, du côté de Fréjus. D'ailleurs dans le but, Carpellier en attaque. Après Fernandez en défense, le capitaine. C'est à peu près l'équipe type. Hein. Je pense que l'entraîneur qui a changé, oui, puisque c'est Charlie Paquier maintenant, ça a changé. Et, on le voyait à la fin d'une interview, il disait que il reprochait pas à ses joueurs, mais qu'il était déçu pour eux que ça s'arrête aussi vite.
C'était c'est quand qu'il a changé l'entraîneur de Fréjus, ça m'a échappé.
Bonne question parce que j'ai vu ça. Je pense que c'est quoi, je vais te dire ça. Mais...
La question piège.
Ouais, piège parce que je l'ai. En plus, j'avais suivi l'actu mais je me rappelle plus la date. Donc oui, Fréjus qui s'incline à domicile face à Ajaccio et donc. Ils ne pourront pas continuer, ils vont se concentrer sur le championnat maintenant.
Ouais.
Alors,
okay.
Ça date du décembre 2011, le 7, si je ne m'abuse. Ouais, 7 décembre 2011, donc c'était ouais, il y a un mois à peu près.
D'accord. Ok. Voilà, donc on a été complet sur nos clubs de national. Est-ce que j'oublie quelque chose sur les clubs donc par rapport au 32e? Bah oui, on va parler donc d'un autre club qui s'est fait éliminer, c'est le Red Star. Donc là, bah, comme beaucoup vous l'avez suivi, donc le Red Star jouait son match face à Marseille au Stade de France. C'est toujours, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve toujours ça un petit peu dommage. Bon, pour l'Orléans Duchère c'était encore pire, mais parce qu'il se déplaçait dans un grand stade comme le Red Star, et là il se déplaçait carrément dans le grand stade du club qu'ils affrontaient. Mais je trouve toujours un peu ça dommage, les clubs qui se déplacent vraiment dans un grand stade, parce que du coup, c'est le petit est désavantagé, alors qu'il joue à domicile de jouer dans ce type de stade-là.
Tu sais que ceux qui l'ont demandé.
Ouais, non, mais c'est clair, ils le demandent pour faire une grosse recette et pour gagner un maximum d'argent, mais.
Mais de toute façon, je pense
c'est
que
c'est une belle vitrine aussi. C'est une belle vitrine
si,
aussi.
Si ça avait été joué à Saint-Ouen, ça aurait chauffé, je pense. Je pense qu'il y aurait eu des quelques incidents.
Oui, si on parle d'un aspect sécuritaire, moi je prends l'exemple du match La Duchère-Lyon. Quand on sait l'ambiance qu'il aurait pu y avoir au bord d'un petit terrain, Jean-Michel Aulas a bien précisé qu'il avait mis à disposition toute son équipe de sécurité pour un match de Ligue 1. Donc vraiment bien surveillé et quand on voit finalement qu'il y a eu 15 ou 20 000 spectateurs et 30 000 du côté du Stade de France, il y a quand même du coup...
Non, du côté du Stade de France, il y en avait 45-50 000. Hein.
Ah pardon, autant pour moi alors.
Non, non, mais enfin ouais.
Je vais t'arrêter un peu tôt dans le décompte des places, donc finalement les équipes de National ou en dessous sont plutôt contentes d'un aspect sécuritaire et d'un point de vue financier aussi, hein.
Ouais, mais bon, après, du coup, ils galvaudent un peu leur chance sportive, quoi.
Surtout qu'il y avait quand même, sur les 45 000 au Stade de France, on dirait qu'il y avait 40 000 Marseillais, quoi. Alors que si ça avait été à Saint-Ouen, ça aurait été... C'est sûr que c'est dommage, ça enlève le côté champêtre de la Coupe de France, et que c'était plus le match traquenard, parce que Marseille, ils ont l'habitude de jouer dans les grands stades, alors que le Red Star n'a pas l'habitude, n'a jamais joué dans un stade aussi grand. Et c'est sûr que ça peut être un désavantage, finalement, pour le Red Star.
Ah, mais c'est clairement un désavantage, parce que tu regardes sur tous les joueurs de Marseille, en plus au Stade de France, là, comme ils ont fait deux finales de Coupe de la Ligue, ils y ont joué beaucoup plus souvent que les joueurs du Red Star qui avaient jamais joué, peut-être à part Steve Marley, quoi.
Ouais, encore Marley, la frappe qu'il fait, c'est une frappe de grand-mère, quoi. Bon, il a quand même 38 ans, faut le pardonner. C'est pour l'anecdote, ouais. Quoi.
Faut remettre les choses à leur place. Donc ouais, juste pour parler un petit peu donc de ce match, on l'a tous vu. Donc bon, on va pas revenir sur l'éclair au début de génie de Youssef Touati qui avait tout éliminé la défense marseillaise.
Ça m'a fait rire aussi ça. La formidable action et il se loupe le plus simple quoi. Le
ouais, fait, il avait quand même un sacré chevauché quoi.
Il fait le terrain et après il fait une vieille louche là. un vieux piqué.
Ouais, bon, c'est Mandanda sans vite, hein.
Oui, c'est sûr, c'est Mandanda, ça va être impressionnant aussi. Ouais.
Donc on va pas revenir sur le match. Bon, moi je trouve quand même un petit peu le score sévère. Bon, ils prennent 3 buts dans les 10 dernières minutes. Et puis ouais, en plus vous avez parlé Corgelin qui est pas exemple tout reproche peut-être sur certains des buts. Donc voilà, bah juste.
Moi ce qui m'énerve le plus sur ce match, c'est qu'ils prennent 2 buts de Jordan Ayew et qu'après ils se la pètent, quoi. Tu le vois.
C'est vrai que
autant Jordan Ayew il met une lucarne, Valbuena il met son but, chacun met son un but quoi, et ils sont c'est des joueurs qui sont habitués à marquer, mais Ayew je l'aime, c'est pas que je l'aime pas, mais son comportement qui m'énerve.
C'est vrai, tu fais bien d'en parler. Il y a deux choses. Il y a ouais, quand il marque, on a l'impression que lui il est le fils de Abbé Tipelé, et du coup qu'il faut le respecter, ouais, alors qu'il est finalement bien moins fort pour moi qu'André Ayew, qui est vraiment un bon joueur de Ligue 1, alors que Jordan Ayew restera pour moi un joueur de complément. Et il y a ça, il y a ce que tu dis, ouais, dans ses réactions après ses buts, et puis il y a aussi des fois dans certaines réactions dans la presse où il se plaignait de pas jouer, alors que quand on voit les avant-centres qu'il y a à Marseille, ça s'explique, oui. Quoi.
Ça s'explique, oui.
Ah, mais tu...
On voit avec Brandao qui revient.
Ouais, on va pas parler des affaires de mœurs, on va rester sur du football.
Bon, maintenant, il aura... C'est dommage qu'il parte à la CAN. Enfin, c'est de l'ironie que je dis. C'est dommage parce qu'il aurait pu jouer encore plus.
Ouais, mais il partira à la CAN, donc voilà. Mais moi, ça ne me gênera pas. On va juste écouter Steve Marley qui donc nous livre trois. On va écouter trois petits bouts donc de son interview qui sont sympas. Donc la première chose dont il nous parle, c'est du match et donc. On va l'écouter tout de suite, donc oui, sur l'ampleur du score, etc. Qu'est-ce qu'il a pensé de ce match-là ?
Déçu, j'en ai pris 5 il y a 2 ans au parc, j'en prends 5 encore ce soir. Non, je ne suis pas déçu parce qu'on a donné le maximum, on a tout donné, on n'a pas de regrets, c'est ça qu'il faut retenir. Après, on s'est créé aussi des occasions et on a joué face à une des 16 meilleures équipes européennes ce soir, donc... Le score est peut-être sévère, mais si on le voit d'une autre manière, c'est une équipe qui nous a respectés. Donc je suis quand même satisfait ce soir.
Donc voilà, on a écouté Steve Marley. Donc il y a juste une chose sur laquelle je voulais revenir, et Alonso l'avait déjà dit quand il commentait le match, à savoir que quand une équipe met 5-0, quand Marseille met 5-0 Red Star, en fait c'est parce qu'il respecte le Red Star. Et je lisais sur un blog un commentaire qui m'a bien fait rigoler et qui disait qu'en Ligue 1, le respect se perd. Parce qu'avec tous les 0-0 auxquels on a eu droit, mettre 5-0 à une équipe, c'est vraiment la respecter. C'est vrai que je pense qu'on peut dire dans ce cas-là que Paris n'a pas respecté Loïc Miné, alors que je ne pense pas, et je pense que même qu'ils leur ont fait bien peur. Non, tu mets le nombre de buts
que
tu dois mettre à une équipe.
Fait peur.
Ouais,
c'est vrai,
ouais.
C'est vrai que Loïc Miné...
Ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Enfin,
oui, non, c'est vrai. Là, c'était bon, il y a... C'est pas, il y a des explications aussi sur ce match, hein. Si tu veux, on peut en parler. Mais...
Sur le match.
Parce qu'en fait, Loïc Miné, j'avais pas.
Ah ouais, non, attends, on en parlera juste après. Ouais. Juste okay. Pour finir sur Steve Marley, on va écouter donc maintenant une partie de l'interview où donc il nous parle un petit peu du public. Et tu en parlais tout à l'heure, si ça s'était joué peut-être à Saint-Ouen, sur les spectateurs, il dit qu'il y a quand même des banlieusards. Et donc, il reparle un petit peu de la fête de créer un deuxième club à Paris.
Donc je suis quand même satisfait ce soir. Je pense pas. Je pense pas parce qu'on s'est créé la première occasion, il me semble. On a senti tout de suite qu'on était concerné. Je n'ai pas l'impression qu'on a fait une montagne de cette équipe de Marseille. Après, il y a des petits détails qui font la différence entre notre niveau à nous et le très haut niveau ce soir qu'avait Marseille. C'est-à-dire la dernière passe, le dernier geste, peut-être défendre d'une manière peut-être un peu plus intelligente. Mais ça, on va l'apprendre. Non, c'est vrai que bon, on savait qu'on allait y avoir quand même une majorité de Marseillais, mais parmi les, je sais pas, 50 ou 45 000 spectateurs, il y avait des Parisiens, des banlieusards. Donc c'est ça qui est encourageant. Si on veut aller un petit peu plus loin, si on veut faire un deuxième grand club à Paris, bon, voilà, on est quand même content.
Ce dont parlait donc Steve Marley, c'est de l'émergence d'un deuxième club. Non, non. Thomas, tu me parlais en off de Domenech. Domenech, oui, en fait, il a dit que le Red Star pourrait être un club qui l'intéresserait, mais qu'il ne ferait pas de déclaration pour respecter l'entraîneur en place qui est Vincent Doucanti. Doucanti, donc, qui en plus a été intronisé à peu près pareil que l'entraîneur de Fréjus début décembre. Mais c'est vrai que là, en ce moment, je sais pas, le deuxième club à Paris, ça, on fait que d'en parler. Là, c'est. Ça devient fou comme on a un club maintenant à Paris qui deviendrait hors norme. En plus, on parle d'aller au Stade de France, etc. Donc, toutes les spéculations sont bonnes. Et donc, ça, je trouve ça marrant que Domenech vienne s'immiscer là-dedans pour parler en plus d'une équipe comme le Red Star. Ça, je trouve ça vraiment bizarre, quoi, pour pas en dire plus. On enchaîne sur une équipe, Thomas, dont tu vas sans doute vouloir nous parler, même si elle s'est fait sortir et qu'on ne pourra pas en parler au prochain tour. C'est cette équipe du RC Strasbourg, donc équipe de CFA2 qui a été battue à Drancy, club de CFA, après un match totalement fou.
Ouais, effectivement, c'est un match totalement fou. Hein. Je me suis rongé les ongles moi sur ce match quand je l'ai écouté, et c'était terrible parce que déjà c'est un match, voilà, Drancy, on se disait dès qu'on a tiré Drancy, on était un peu déçus, surtout les joueurs, parce qu'ils voulaient créer un gros club à la Méno, puisque on n'a jamais joué à la Méno depuis le début. Enfin, on ne jouera pas d'ailleurs en Coupe de France cette année à la Méno, parce qu'en sept matchs en Coupe de France, Strasbourg n'a jamais joué à domicile. Et donc là, ce match-là aussi était un tirage difficile, et puis que personne n'a apprécié vraiment. Hein, mais bon, le coach est juste content d'être en Coupe de France, pouvoir combler les trous quand il n'y avait pas match de championnat. Donc ça permettait de faire jouer un peu l'équipe. Donc c'était un match avec l'équipe type, hein, à Drancy, avec un stade assez plein, 17 000 spectateurs. On sait que Drancy a fait un beau parcours en Coupe de France l'année dernière, en arrivant en huitième de finale, en se faisant éliminer avec les honneurs par l'OGC Nice. Par l'OGC Nice dans les dernières secondes de jeu, donc c'était un match difficile. Pourtant Strasbourg dès la 33e minute de jeu, met un but mais somptueux de Gauthier Pinault, un ciseau retourné qui est totalement magnifique. Vous pouvez voir la vidéo sur le site officiel du Racing Club de Strasbourg, sur le Facebook du président du club, Frédéric Citerlé. Et ça avait bien lancé le match, les Strasbourgeois étaient vraiment dedans, il n'y avait rien à dire, physiquement c'était là, techniquement tout était là, et juste 3 minutes plus tard, c'est Jeanne Gini qui double la marque sur un beau centre de saut sur la droite, et Jeanne Gini, le fils de je ne sais plus comment c'est son prénom.
Bernard
Gengini, merci. Ouais, donc son fils qui double le score pour le Racing, et ça sera là à la mi-temps. Seulement à la mi-temps, je ne sais pas ce que François Keller, le coach strasbourgeois, a donné à manger ou à fumer aux joueurs de Strasbourg, mais en rentrant, 2 minutes plus tard, on se prend un but complètement, où on voit que nos défenseurs étaient complètement à la masse. On se prend un but de la part de Diomande, et 2 minutes plus tard, on se prend un deuxième but, donc Drancy égalise Diédou à la 52e, donc ça fait 2 buts en même pas 3 minutes. Et là, le calvaire strasbourgeois continue, parce que ils y sont plus, et par miracle, les Lady arrivent à marquer après un cafouillage dans la surface à la 87e minute. Le Lady, l'ancien pro qui a décidé de rester au Racing alors qu'il pouvait avoir des contrats en Ligue 2 dans certains clubs, et qui arrive à marquer à la 87e. Malheureusement, on se demande comment on arrive à faire ça. À la 93e minute, Drancy égalise par un but somptueux, encore une fois, de Guilly, qui ajoute une frappe de 25 mètres, et qui était légèrement sorti de ses cages, se fait lober avec une balle qui effleure la barre transversale et Drancy pousse Strasbourg aux prolongations. Durant les prolongations, rien à me mettre sous la dent vraiment. Drancy a eu 2 expulsions, ils sont à 9. Strasbourg n'arrive pas à marquer malgré la domination évidente. Donc Drancy les pousse évidemment au pénalty. À noter que le terrain à ce moment-là, au moment des prolongations, est déplorable. L'arbitre est complètement au côté de la plaque, crevé, et que Drancy a dû faire remplacer son gardien titulaire et a dû mettre un autre gardien qui n'est pas du tout, dont le poste de gardien n'était pas du tout sa prédilection, qui a 42 ans, je crois, et qui par miracle arrive à sauver 2 pénaltys, ce qui fait que Strasbourg perd au tir au but 4-2. Alors le gardien remplaçant qui est le héros du soir, hein, et donc Strasbourg qui perd, beaucoup de gens sont déçus, les 50 supporters strasbourgeois qui étaient surtout des supporters parisiens sont extrêmement déçus, même à Strasbourg. Donc beaucoup d'hypothèses, par exemple la lettre de la fédération chypriote pour Milovan Sikivic, que si je sais pas si vous le savez, Milovan Sikivic qui va revenir au Racing, qui jouait à Chypre, mais qui avait des problèmes financiers, donc Chypre l'a laissé libre, mais la lettre n'est pas toujours pas arrivée, ça fait 2 semaines, donc on ne sait pas si c'est la poste qui fait du zèle ou bien les Chypriens.
Ils avaient tellement d'argent qu'ils n'ont pas pu mettre des timbres.
Ouais, voilà, c'est peut-être ça aussi. Et donc Sikimic qui n'a pas pu jouer, le terrain qui était déplorable, c'était un champ de patates, mais de bonne qualité hein, les patates, hein, mais c'était vraiment pourri, donc voilà, c'est dommage parce que Strasbourg était dedans. On voit maintenant que c'est encourageant pour la suite de la saison, pour la montée en CFA. Et Strasbourg qui est troisième et qui doit maintenant apprendre de ses erreurs, parce qu'on se souvient à Vesoul, un match qu'ils avaient fait à Vesoul, qui gagnait 1-0 à la 83e minute, ils se sont égalisés dans les dernières secondes. Et vraiment, les supporters commencent à être énervés parce qu'ils se disent qu'il faut tenir le match, parce que sinon on ne montrera jamais. Et donc j'espère que les Strasbourgeois retiendront leurs erreurs. Et maintenant, il faudra faire le rouleau compresseur en seconde partie de saison et plus le rouleau à pâtisserie, parce que ça marchera pas comme ça.
Voilà, vous donnez la parole à Thomas sur Strasbourg. Il vous fait 1h30 d'émission sans problème.
Sans problème.
Alors juste, je vais quand même corriger 2 petites erreurs que tu as faites. Tu as annoncé quand même qu'il y avait 17 000 spectateurs alors qu'il y en avait seulement 1 700. Ça m'étonnait un petit peu que pour un match...
Pour un zéro.
Voilà. Et ensuite, Yann Bell, celui que tu as nommé, ans, donc, qui a remplacé le gardien, n'a pas 41 ans, mais 36. Il est né en 74.
Oh là là.
Bah, donc, pourtant, il faisait plus vieux, hein, je te rassure. C'est sorti. Parce que moi c'est sur les échos que j'ai eus, il faisait plus vieux. Donc, moi, on m'a dit qu'il faisait 42 ans. Bon.
Donc non, il en avait 36, donc ce qui est déjà pas mal. Oui. Je vais quand même vous parler de mon petit coup de cœur dans ce match-là. Thomas a pu vous parler de son coup de cœur avec Strasbourg. Moi, je vais vous parler donc mon coup de cœur, l'AS Valence, club de CFA qui a éliminé Laval, club de Ligue 2. Je vous rappelle quand même que dans le tour précédent, Valence, toujours à domicile, avait battu Grenoble, qui évolue en CFA 2, mais bon, ancien club de Ligue 1 et ancien club de Ligue 2.
Ouais, mais le tour précédent,
face à Grenoble, franchement, c'est le match qu'ils auraient presque pu le plus perdre, parce que Grenoble était vraiment meilleur. Et puis après, Grenoble a fini à 9 à la fin du temps réglementaire où il y avait 2 partout. Et Valence s'est imposé dans les prolongations face à Grenoble 3-2. Donc Grenoble au tour précédent avait fini à 9, et au tour précédent Valence avait battu Arles-Avignon, club de Ligue 2, et donc il les avait battus 0-0 à la fin du temps réglementaire. Arles-Avignon était à l'époque, il me semble, à 9 déjà à la fin du temps réglementaire, et donc ils les ont battus après dans les prolongations 2-0. Mais en fait le match a été arrêté car Arles-Avignon n'avait plus assez de joueurs, étant donné qu'ils avaient 4 expulsés plus un joueur blessé, donc du coup ils étaient plus que 7 et donc ils pouvaient pas terminer le match, et donc voilà, c'était quand même un petit clin d'œil assez sympa.
Ça se dit que le professionnel est devant vous.
c'est vrai que tu imagines Arles-Avignon à quel point ils sont en crise après le match face à Valence, donc ils avaient 4 expulsés quoi. Donc voilà, donc là sur ce match face à Laval, comme toujours, Valence s'est pas imposé dans le temps réglementaire, ils sont même allés au tir au but, puisque donc Stéphane Kals avait ouvert le score après 25 minutes de jeu. Donc Stéphane Kals, ancien joueur de Valence lorsqu'ils évoluaient en Ligue 2, et donc qui est revenu l'année dernière, il me semble, quand Valence était encore en CFA 2. Donc c'est pas mal. On a d'anciens pros qui sont revenus à Valence. Donc je pense notamment à Chomogo et à Kals qui évoluaient à Valence. On a aussi Philippe Brunel, l'ancien Lensois, qui est revenu cette année, ancien joueur également de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, et donc Valence qui reste sur trois montées consécutives, puisqu'ils sont montés donc de DHR en DH, puis de DH en CFA2 et de CFA2 en CFA, donc les trois consécutives. Donc là cette année ils visent encore la montée. Bon, ça va être compliqué, puisque dans leur groupe donc de CFA il y a des sacrés clients avec Bourg-Perona et puis surtout Lyon-la-Duchère. Donc voilà, mais là donc au tir au but, ils se sont imposés donc face à Laval. Après donc Gimbert est répondu à Stéphane Kals avant la mi-temps. Donc une séance de tir au but où ça va jusqu'au 8e tireur, vraiment la magie de la Coupe de France, tout ce qu'on aime, le gardien de Laval qui a fait jouer son expérience sur le deuxième tireur valentinois qui loupe, il prend le ballon dans les mains, il lui le tend, il le déstabilise, etc. Après, il a voulu essayer de déstabiliser Saltan, le dernier tireur valentinois, qui après marque son tir au but et qui va faire le tour du gardien après avoir marqué son péno. Enfin, c'était vraiment une grosse ambiance. On avait rempli quasiment le stade Pompidou, donc c'était vraiment un match qui nous rappelle le passé de Valence qui a donc évolué dans des divisions bien plus hautes, et on espère qu'ils pourront retrouver à nouveau ce niveau-là. Et donc au prochain tour, Valence aura droit à un nouveau match de gala, puisqu'ils recevront une équipe certes régionale, mais une équipe de Ligue 1, avec la réception d'Evian Thonon-Gaillard. On souhaitait dans le vestiaire, à la fin, au moment de la joie, on disait qu'on attendait maintenant Ancelotti, je pense un petit peu comme tous les clubs de CFA et de CFA2. Bon, ça sera un club de Ligue 1, ça sera pas le PSG qui était attendu pourtant, mais ça sera déjà Evian, et pourquoi pas continuer à rêver maintenant qu'on a sorti quand même deux clubs de Ligue 2, plus un ancien club de Ligue 2 avec Grenoble. Donc pourquoi pas rêver maintenant, tout est possible. J'espère qu'ils auront droit à une nouvelle fête du côté de Pompidou face à Evian. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres matchs sur lesquels vous vouliez
Attends, je veux juste rajouter quelque chose.
Ouais.
Je veux juste te poser une question. Je pense que les auditeurs ont compris, mais bon. T'es originaire de quelle région?
C'est vrai, c'est comme quand t'as Thomas, tu lui demandes de parler de Strasbourg, moi tu me demandes de parler de Valence, je vous en ferai des heures d'émission.
Le point de Valence, c'est que tu peux pas en parler souvent, quoi, à part la Coupe de France.
Ah ouais, mais bon, puisque tu me taquines un petit peu, je vous rappelle quand même l'histoire de Valence en 2006. Valence, en début d'année, il démarre en national avec trois joueurs sous contrat, tellement qu'ils ont plus d'argent. Ils font venir des mecs à l'essai. Tellement qu'ils n'ont pas d'argent, ils peuvent même pas leur payer le déplacement, évidemment, mais ils peuvent pas non plus leur payer le repas à midi. Et donc en fait, ils se sont juste arrangés avec la cafétéria casino qui est en face du stade, non pas pour avoir des repas gratuits, hein, mais des réductions sur les repas. Et donc ils arrivent quand même à faire une équipe de bric et brac à cette époque-là. Ils avaient notamment fait signer Frédéric Fourré, ancien joueur de Nancy, ou Adjaoud, ancien de Sedan. Bref, ils arrivent à faire une équipe comme ça de bric et brac, et avec cette équipe-là, je vous dis, trois joueurs sous contrat en juillet, ils arrivent juste à avoir une équipe compétitive. Ils arrivent à monter en Ligue 2, et on leur refuse la Ligue 2 parce que pour encore des problèmes d'argent, ou c'est que des promesses de dons et non pas un budget. Bon, après ils arrivent à le boucler plus ou moins, mais il y a eu des discussions à la Ligue qui n'ont pas été trop comprises, et donc on leur refuse l'accès en Ligue 2. Ce qui est le plus bizarre, c'est qu'on leur permet quand même de rester encore en National, en sachant qu'ils ne pourront pas payer leurs joueurs, et que du coup ça les contraint au dépôt de bilan, et donc Valence est relégué en DH. L'année d'après, ils font tellement une mauvaise saison qu'ils sont relégués en DHR, et ensuite la belle histoire est revenue avec montée en DH, CFA2, CFA, et pourquoi pas plus, en tout cas c'est ce qu'on espère du côté de Valence. Voilà.
Vous avez eu pire que Strasbourg, en fait.
Ah ouais. Oh, purée. C'est quand même un truc de malade, hein, le truc.
Ah ouais, j'avoue.
et après arrive à monter quand même avec cette équipe. Les clubs du coin Saint-Etienne, Lyon leur avaient prêté des joueurs, etc., pour arriver à boucler une équipe, et ils étaient arrivés à monter. C'est dommage, malheureusement, ils n'ont pas pu voir la Ligue 2 et ils ont vu la DH. C'était plus pareil.
Nous à Strasbourg, on attend toujours Gourcuff. Hein. Ola, s'il était venu nous aider.
Ah, il peut te l'offrir. Hein, parce que...
Bah, d'accord, ça fait plaisir.
C'est gratuit. Hein. C'est comme j'avais vu sur un forum aussi que Rennes s'intéressait à Erding, et il y en a des supporters qui mettaient on vous fait un package avec Tiené si vous voulez. Ouais.
Donc, on les récupère. Hein.
Ok. Est-ce
et donc, parlons de Locminé.
Allez, parlons un petit peu de Locminé si tu veux, Thomas.
Non, c'était parce qu'ils avaient éliminé Van au précédent, c'est pour ça.
Ah ouais, donc, tiens, je savais pas que Locminé avait sorti un club de
national. Et face au PSG, ils ont tenu jusqu'à la 90e.
13e.
Et Lugano, ouais. Lugano est 93e, c'est encore plus cruel. Et Lugano qui marque son premier but.
Ouais. C'est rattrapé, c'est le groupe qu'il a fait.
Je sais pas si vous avez entendu Ancelotti qui en parlait. Il disait, vous connaissez le journée, s'il lui posait la question, vous connaissez Locminé ? Il fait, j'ai essayé de regarder des vidéos sur internet, mais la qualité était mauvaise.
j'ai entendu, ouais. Et ben voilà, nous, sur Ancelotti, on travaille avec ça toutes les semaines, des vidéos de qualité nationale, CFA, CFA2.
Ah ouais.
Il y avait quand même une chose dans le match de Locminé face au PSG. Locminé, il jouait donc à Lorient, donc encore dans un grand stade, ça pourrait soulever la problématique dont on parlait tout à l'heure. Mais donc pelouse synthétique, et Locminé, il s'entraînait quand même depuis 15 jours sur la pelouse synthétique. Et puis d'ailleurs, il y a eu le joueur qui s'est blessé. Les clubs en Ligue 1, avant d'aller jouer à Lorient ou à Nancy, ils vont pas s'entraîner pendant 15 jours sur pelouse synthétique, quoi.
Oui, non, pas sûr.
Mais c'est pour dire qu'ils avaient quand même pris le match au sérieux, et puis qu'il n'y a pas de hasard. Je pense que le Red Star, ils sont pas allés s'entraîner au Stade de France, et ni même ils ont pas joué, donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil à Locminé pour les féliciter encore de leur match. Et donc au prochain tour, c'est pour finir le tirage de la Coupe de France, donc c'est Sablé. Club de CFA2 donc qui a tiré le PSG, club que...
Julien Sablé ?
Ouais, Julien Sablé.
Ah, le même, d'accord.
non, donc c'est Sablé qui a tiré le PSG, club que tous les clubs de CFA et de CFA2 voulaient recevoir. Désolé, maintenant c'est plus Lyon qui fait rêver. Et Lyon, c'est Luçon qui en a
dit. Luçon, ouais. À ne pas confondre avec Luchon dans les Hautes-Pyrénées. C'est Luçon en Vendée.
Tout à fait.
J'essaye de placer un peu, et me rappeler un peu du pays, quoi.
pour compléter donc ce tirage, Bourg-Perona, donc club de CFA, recevra l'AC Ajaccio. Compiègne, également club de CFA, recevra Lille. D'ailleurs, Compiègne pourrait recevoir Lille à nouveau à Beauvais, en sachant que Lille s'était déjà déplacé à Beauvais pour affronter Chantilly, club de DH, ce
qui
week-end.
Qui va la faire?
Donc c'était pas mal, non, je ne ferai pas de blague sur la crème de Chantilly, je ne suis pas Stéphane.
Oh, il y en a eu plein.
Oui.
Il y en a eu plein.
La crème de la crème. Ah.
Ouais. Ou Chantilly, c'est du gâteau pour Lille ou des trucs comme ça.
Et donc pour compléter donc le tirage des 16e, le match de l'adversaire de Strasbourg qui se déplacera à Limoges, club de CFA2, donc un affrontement entre club de CFA2 et de CFA. Limoges par contre qui a été la première surprise de ces 32e de finale, puisqu'ils avaient battu une équipe de Ligue 2, puisqu'ils ont disposé de Boulogne 1-0. Ben voilà, on a été assez complet sur ces 32e de Coupe de France, donc maintenant rendez-vous le 21 janvier pour la suite. Et donc pour au moins un club de national en huitième de finale, on en espère plus, mais donc ça sera à suivre le 21 janvier. Allez, et donc on a après la Coupe de France, on va quand même aborder un petit peu le championnat national, puisque ça s'appelle quand même le débrief du national, cette émission. Et donc on va aborder rapidement la prochaine journée de national, donc le retour du championnat le week-end prochain. avec un derby parisien, le Paris FC qui reçoit Créteil. On aura également le déplacement de Beauvais à Orléans. Quevilly recevra pour sa part Besançon, Cherbourg sera opposé au Poiré-sur-Vie, Nîmes recevra Fréjus-Saint-Raphaël, donc ça ce sera pour les matchs du vendredi soir. Samedi c'est Niort qui recevra Colmar, le Red Star 93 recevra le Rouen, Épinal sera opposé à Luznac, Bayonne au Gazélec d'Ajaccio et Martigues sera opposé à Vannes. Voilà, donc ça c'est pour le programme, messieurs, de ce dont nous débattrons la semaine prochaine. Voilà, est-ce que vous avez un dernier petit mot à ajouter sur ce championnat national ou sur la Coupe de France? Dernière petite info.
Il n'y a pas de transfert. Voilà. Mercato est gelé.
Mercato gelé en national?
Partout. Pas qu'en national, mais c'est vrai qu'en national, il n'y a rien. C'est vrai qu'il y a rien. Et beaucoup à cause de la DNCG surtout.
Et ouais, on a parlé de ces clubs qui ont connu des dépôts de bilan. On avait commencé avec Mulhouse, on a parlé de Strasbourg, on a parlé de Valence. C'est vrai que l'argent dans le foot, tout le monde n'a pas des propriétaires du Qatar. Hein.
Pourtant, il fait pas froid pour un mois de janvier. On parlait de gelé.
Ouais, c'est vrai. Pourtant, la saison est
douce. Je suis en Alsace. Faut pas déconner.
Ah oui. J'avais oublié.
Voilà, merci messieurs. Donc juste avant de conclure, je vais quand même vous donner quelques petites infos. Juste pour rappeler donc Épinal qui ne jouait pas en Coupe de France et qui ne jouait pas non plus en championnat puisque son match face à Beauvais avait été reporté, a disposé en match amical de la réserve de l'AS Nancy Lorraine 4 buts à 2 avec des buts d'As Babou, Oswald et un doublé de Julien Jaillère. Ce qui a permis, d'ailleurs, le mercato n'est pas complètement gelé, puisqu'ils ont pu intégrer leurs trois nouvelles recrues, Rachid, Busman et notamment Sandy Payot, ancien joueur donc de Grenoble qui est en liquidation judiciaire et joueur formé à l'Olympique Lyonnais, donc un bon défenseur de plus pour cette équipe d'Épinal. Ensuite, je voulais vous dire également que le match donc Épinal-Beauvais qui ne s'est pas déroulé ce week-end aura lieu samedi 21 janvier à 18h30, donc sur le nouveau tour de Coupe de France. On espère que là ils pourront le jouer parce qu'il a déjà été reporté deux fois. Et puis pour parler donc du Red Star, voilà trois petites infos. Donc le Red Star a réalisé l'affluence record, comme on pouvait s'en douter, en recevant au Stade de France l'Olympique de Marseille, donc à ce niveau de la compétition avec plus de 50 000 spectateurs. Par rapport à ce dont on parlait avant, là, le deuxième club à Paris, donc le président du Red Star, Patrice Haddad, a dit qu'il allait appeler Domenech à titre personnel, comme ça, pour le consulter. Il a dit que c'était quelqu'un qui pouvait avoir des idées intéressantes et que donc il fallait autant s'en servir. Et enfin, le Red Star a mis à l'essai également Sofiane Ben-Braham. Voilà, ça vient juste de tomber. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis rendez-vous. À mardi prochain. Salut !